Radio Bark, le 27e et notre deuxième partie. Je rappelle que notre invité ce jour est Ludovic Roux, qui est président des CAF coopératives viticoles de l'Occitanie. On avait terminé la première partie, Monsieur Roux, sur le Salon de Paris. Alors, bon, vous en avez expliqué les tenants, les aboutissants, les avantages. Maintenant, retournons dans l'Aude, revenons chez nous et revenons et confrontons-nous aux difficultés et à la réalité du moment.
Alors déjà, oui, c'est toujours un plaisir de revenir à l'Aude. les difficultés, je vais vous dire, on a trois grands défis à relever au niveau viticole, dont l'Aude en particulier. Le premier, c'est le défi environnemental, puisque la société et puis le changement climatique le démontre aussi, nous demande une évolution vers des pratiques de plus en plus vertueuses. Mais volontairement, aujourd'hui, je vais moins axer mes propos, mais malgré tout, sur ce défi, mais malgré tout, il faudra le relever. Il y a un second défi qui est l'adaptation de nos productions et de nos vins au goût du consommateur et aussi être en capacité de vendre aux consommateurs, parce que on voit bien qu'on perd des consommateurs, notamment en France et dans le local, et par contre on en gagne partout dans le monde, et c'est pas la même chose, c'est pas la même façon de travailler que de vendre à quelqu'un en France ou à l'autre bout de la planète.
Oui, d'ailleurs, j'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça, que pas en 2023, mais en 2022, pour l'exportation des vins du Languedoc, ça avait été une très bonne année.
Tout à fait. 22 a été une très bonne année. Alors après, il y a peut-être des effets de rattrapage par rapport à l'après-Covid, etc.
Oui,
mais 22 a été une très bonne année. Malheureusement, si on prend au global, depuis 15 ans, la France a perdu des parts de marché à l'exportation. On dit souvent que l'export baisse et que donc... certains disent que l'export baisse et que, comme le marché français baisse également, on est dans une situation inextricable. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Du moment qu'on a perdu des parts de marché depuis 15 ans, et ça équivaut à 7 millions d'hectolitres, donc c'est quand même pas une paille, je me dis qu'on est en capacité de les reprendre également. Donc je crois que c'est tout le travail qu'il faudra que l'on mette en œuvre. Et avant que j'oublie, le troisième grand défi, qui rejoint un petit peu le premier, c'est l'adaptation au changement climatique. Et bon, quand on est dans l'Aude, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer trop longtemps quels sont ces problèmes.
La sécheresse et les sécheresses successives.
Sécheresse successive et sécheresse à des moments de l'année où on n'était pas habitué à les avoir, puisque par exemple l'hiver, ça fait deux hivers qu'il ne pleut pas. Et donc il pleut parfois au printemps, l'an dernier il a plu au printemps, cette année on verra, le printemps démarre, pour l'instant il n'est pas très pluvieux, on verra bien à quel moment il va pleuvoir, mais une sécheresse de toute façon avait moins de précipitations à l'année depuis deux ans, et en plus des précipitations qui tombent à des moments différents, donc il va falloir qu'on s'adapte à ça, et se rajoute aussi dans ce changement climatique des aléas climatiques qui arrivent de plus en plus fréquemment, avec par exemple des vignes qui commencent à éclore avec des bourgeons qui sortent beaucoup plus tôt, et donc des risques de gelée qui sont sur des temps beaucoup plus longs. Puisque,
vous voyez, gare au sein de glace. Hein.
Voilà. Et puis vous rajoutez à ça la grêle, etc. Donc ces trois grands défis sont à relever en même temps. C'est aussi pour ça qu'il y a une crise, parce que déjà... Chaque défi pris
en soi est déjà un défi.
Est un grand défi, mais les trois concomitamment, ça devient presque impossible. Et en tout cas, on voit malheureusement des vignerons qui perdent espoir. Donc nous, notre rôle, c'est quand même de redonner espoir aux gens. Et donc pour ça, on essaie d'avoir des stratégies. Donc la stratégie, déjà, on va prendre sur l'adaptation de nos vins au goût du client. Donc là, on travaille beaucoup sur l'encépagement. C'est toujours difficile de lier les deux, puisqu'il faut un encépagement qui soit à la fois adapté au goût du consommateur et en même temps qui soit adapté à des sécheresses de plus importantes.
Alors quel est le terme exact que vous employez, des cépages quoi, résistants?
Moi je dis tolérants.
Tolérant
parce que résistant, ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait de l'eau. Toute plante a besoin d'eau. Et d'ailleurs, l'être humain aussi. C'est la vie a besoin d'eau. Donc, résistant voudrait dire qu'on peut produire sans eau. C'est faux. Donc, il faut qu'il y ait de l'eau. Aujourd'hui, on a des secteurs qui sont à moins de 300 mm d'eau par an. Là, on arrive à quelque chose qui est du domaine de l'aridité forte, type désertique. Donc, je dis tolérant parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum d'eau.
Et on arrive à avoir des cépages qui, dans ces conditions, peuvent survivre ou...
Alors, on peut trouver des cépages qui résistent, alors jusqu'à une certaine limite,
oui, bien
mais
sûr,
autour de 250 mm d'eau, on peut trouver des cépages qui résistent, qui tolèrent ce manque d'eau. Malheureusement, il faut trouver à la fois les cépages qui tolèrent, mais aussi les méthodes culturales qui permettent d'arriver à cette résistance, avec par exemple de l'ombrage par rapport à la formation de la souche.
Il faut reconfigurer peut-être les vignes.
Voilà, donc reconfigurer les vignes, ce qui veut dire un investissement important.
Bien sûr. Hein.
Ce qui veut dire aussi difficulté de mécanisation, qui était un moyen de rendre les choses beaucoup plus rentables. Et il faut aussi avoir en face un cépage qui peut se vendre sur le marché. Parce que la mondialisation globale, d'ailleurs pas que dans le monde du vin, fait que les goûts aussi sont de plus en plus mondialisés. Et il faut savoir que 80% des vins dans le monde sont vendus par rapport à une variété. C'est vrai que le français est habitué à ce qu'on lui parle d'une AOP, d'une IGP, donc on va parler de Languedoc, de Corbière, de Fitou, de Minervois. Mais par contre, dans le monde, on parle plus de Chardonnay, de Sauvignon, de Merlot, de Cabernet.
C'est le cépage qu'on met en avant.
Ouais. Et donc, pour répondre à ces défis, il faut quand même avoir des cépages qui plaisent aux consommateurs. Donc on a tout ce travail de recherche, de développement à faire, et également de marketing.
Oui, qui plaisent et dont le nom est suffisamment connu aussi. Ça sera peut-être un autre défi.
Tout à fait. Le faire connaître. Et donc, ça demande beaucoup d'argent.
Donc, vous voyez, de la publicité, des campagnes, d'informations, etc.
C'est ça. Donc, vous voyez qu'il faut, pour tous ces sujets, beaucoup d'investissements qui se doivent être, bien sûr, d'abord privés. Donc, les entreprises doivent s'adapter. Et donc, c'est pour ça aussi que, notamment nous, dans le monde coopératif, on travaille beaucoup à la structuration de nos entreprises, parce qu'il faut répondre à tous ces défis et investir, et qu'il y a des tailles critiques à un moment donné en dessous desquelles on n'arrivera pas à relever tous ces défis, sachant que le monde coopératif se donne toujours l'ambition de faire suivre le maximum d'individus. On pourrait avoir comme un choix politique de dire ben les meilleurs s'en sortiront et puis peu importe advienne ce qu'il adviendra demain, s'il y a moins de vignerons, l'essentiel c'est qu'ils s'en sortent. Bon, la coopération c'est pas ça.
Oui, ça c'est un peu liberté d'entreprise, vous êtes un peu quand même dans l'économie sociale.
C'est ça, on est dans l'économie sociale et solidaire, même si bien sûr nous sommes des entreprises comme les autres et que il y a une grande liberté, mais malgré tout, notre enjeu, c'est quand même que ces milliers de vignerons qui vivent sur les territoires puissent, grâce à leur coopérative qui, elle, va investir, va travailler sur la recherche et développement, sur le service rendu, que tous ces gens puissent continuer à être vignerons, ce qui permettra de faire perdurer les entreprises coopératives, de faire perdurer l'économie de ces territoires, et quelque part, c'est un cercle vertueux. Et je dis très souvent que dans des zones reculées, très rurales, les coopératives amènent plusieurs millions d'euros chaque année sur ces territoires. En plus, la coopération a cette force d'être basée que sur des capitaux familiaux. Il faut savoir qu'un vigneron coopérateur en moyenne, en France, a 7 hectares de vignes. Donc c'est vraiment un petit vigneron.
Oui, effectivement.
Alors, évidemment, il existe des vignerons qui en ont 10 fois plus, mais il existe aussi des vignerons qui en ont moins d'un hectare. Et donc tout ce tissu est rendu possible grâce à ce système coopératif qui est fabuleux à mon sens, et permet derrière d'arriver à des choses très concrètes, parce qu'on dit territoire, on dit service, bon... Je veux dire encore plus concrètement, on fait vivre des villages, on fait vivre des épiceries, on fait vivre des pharmaciens. Voilà, s'il n'y avait pas une économie de la terre dans ces villages-là, il n'y aurait pas tous ces services et tous ces territoires qui vivraient.
Donc, c'est la base de l'économie pour ces villages.
Tout à fait. Donc l'enjeu est énorme. C'est pour ça que nous, on travaille bien sûr pour répondre à ces enjeux, mais on demande aussi au pouvoir public un accompagnement. Sachant que si on regarde le financement de la PAC depuis 15 ans, à euro constant, il a baissé de 25%, voire plus. Donc au même moment où on nous demande des efforts supplémentaires sur la qualité de nos produits, sur l'investissement, on va dire, agroécologique. On nous baisse les dotations de la PAC.
Oui, alors la PAC, c'est la politique agricole commune, c'est-à-dire c'est l'Europe, pour faire ça.
Tout à fait. Oui, c'est vrai. Je m'excuse pour l'acronyme qui pourrait ne pas être connu par tous. La PAC, tout à fait, c'est ça, c'est la politique agricole commune au niveau européen, c'est-à-dire que depuis très longtemps, l'après-guerre, il y a eu une volonté des pouvoirs publics d'aider l'agriculture à se moderniser, puisqu'à cette époque-là, il fallait reconstruire les pays européens, et il fallait être en capacité d'avoir une autonomie alimentaire. Donc je pense que...
La PAC a joué son rôle à une époque, elle le joue toujours.
Tout à fait, la PAC a joué son rôle, elle le joue toujours, et aujourd'hui, évidemment, son rôle évolue.
Évolue forcément.
Alors, il faut toujours garder une souveraineté alimentaire, mais en même temps, il faut aller vers une agriculture plus vertueuse. Par contre, ce que je vous disais, c'est qu'on a baissé cet investissement, et en même temps, on a ouvert aux 80 nos pays et notre agriculture. Mmh. Et donc là, on se retrouve face à une situation quand même qui peut paraître parfois inextricable, puisqu'on nous demande à nous d'avoir de plus en plus de respect de l'environnement, de réglementation, etc., qui sont un coût pour nous.
Bien entendu, avec moins de moyens, finalement.
Et avec moins de moyens, et en plus, en nous mettant en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes contraintes. Donc là, on en arrive à une situation où, s'il n'y a pas un sursaut de la part des pouvoirs publics pour soit apporter des moyens supplémentaires qui nous permettront de compenser le handicap, soit en protégeant un petit peu plus...
assainir un peu le respect des règles.
Notre agriculture, ça va devenir compliqué. Et en même temps, c'est pour ça que c'est très complexe, la viticulture a besoin d'exporter dans le monde entier, puisque nous ne boirons jamais tout le vin que nous produisons en France. Mmh. Donc il faut trouver le juste équilibre dans tout ça. Et en tout cas, nous, ce que l'on souhaite faire dans nos syndicats, c'est être force de proposition, et c'est ce que l'on fait. C'est pour ça que je vous parlais en première partie du domaine de CASE, où nous avons quand même un domaine expérimental tenu par la profession, qui coûte de l'argent à la profession. Donc là, on fait de la recherche fondamentale.
Là où ces fameux cépages tolérants sont travaillés, découverts, exploités, je ne sais pas.
Tout à fait. Et c'est là qu'ils sont, on va dire, vulgarisés, pour prendre un terme simple.
Et sur le plan de l'œnologie, est-ce que les recherches se font aussi à cet endroit?
Alors sur l'œnologie, elles se font, alors pas forcément à cet endroit, même si à cet endroit il y a de l'œnologie par rapport aux cépages tolérants. Par contre, on a aussi d'autres endroits où on fait de la recherche, par exemple pour s'adapter au nouveau goût du consommateur, un exemple parmi d'autres. On se rend compte que le côté santé quand même est de plus en plus important pour les citoyens, et les Américains d'ailleurs sont friands de ça, ils recherchent des vins moins alcooleux. Mmh. Et donc on a là aussi une difficulté, parce que le changement climatique fait que pour avoir une qualité qui corresponde aux standards actuels, il faut qu'on ait des degrés élevés. Et en même temps, on a des citoyens qui nous disent « s'il y a trop de degrés, moi, pour ma santé, c'est pas bon ». Donc là aussi, la recherche a permis des choses assez intéressantes, puisqu'il y a encore, on va dire, 10 ans, tous les vins qui étaient désalcoolisés totalement ou partiellement étaient, entre nous, très désagréables en bouche. À aujourd'hui, on est capable de faire des vins désalcoolisés de 50% qui sont très bons, qualitativement, oui. Et où en aveugle, je pense que beaucoup même d'experts se fera voir, notamment sur les blancs, les rosés et tout ce qui contient des bulles.
Oui, donc
sur les
rouges, c'est un peu plus compliqué. Il y a des progrès sur le plan gustatif et sur les nouveaux produits qui sont marquants.
Tout à fait. Et c'est ce qui, quelque part, fait que ça nous rend un petit peu optimistes.
Oui, voilà, parce que ce sont des réussites, là, quand même.
Voilà, tout à fait. Et donc, on essaie de jouer sur tous les tableaux. Il faut à la fois que nos vignerons entendent que le statu quo n'est pas possible. Donc, il faut faire évoluer nos pratiques, investir sur les nouvelles variétés, investir sur des nouvelles méthodes de travail. Peut-être que demain, il faudra qu'on investisse dans de la robotique. Il y a de plus en plus de firmes qui commencent à trouver des solutions. Malheureusement, le marché viticole étant faible par rapport à la robotique, pour l'instant, ça tâtonne un peu, mais pourquoi pas. Et donc, il faut que, bien sûr, le vigneron tienne compte de tout ça, mais il faut aussi que les collectivités locales, les pouvoirs publics, nous aident à encadrer les choses et à protéger notre agriculture et notre viticulture. voire même l'accompagne, parce que par exemple, au niveau de la politique agricole commune, il y a des budgets qui sont alloués à, on appelle ça les ICHN, c'est des, quelque part, des compensations de handicap. Et aujourd'hui, il n'y a pas de compensation de handicap, par exemple, pour les zones arides comme les nôtres, zones méditerranéennes.
Oui,
mais donc, une de nos actions syndicales, c'est de démontrer, ça c'est pas très compliqué, de démontrer qu'on est en zone sèche, de démontrer que si on n'a pas une aide supplémentaire, on pourrait arriver à une baisse de rentabilité telle que des exploitations sont obligées de plier boutique. Et donc, on essaie d'argumenter et d'obtenir des enveloppes pour compenser ce handicap.
On marque, Ludovic Roux, une seconde pause et on continuera sur cette démonstration.